Je suis né en Angleterre par erreur administrative céleste, parce qu'en fait je suis français de cœur. J'aurais dû naître en France, mais bon, je suis né en Angleterre. Et donc, c'est une longue histoire, mais avant même que je ne me convertisse à l'âge de 18 ans, je passais tout mon temps à écouter la radio française, alors que j'écoutais en Angleterre. Et dès que je suis venu en France, à l'âge de 3 mois, rituellement, pour passer un stage de 6 mois, dès que j'ai mis les pieds en France, c'est comme si je rentrais chez moi. Donc c'est un sentiment qui ne m'a jamais quitté. Donc avec Marie, on a passé presque toute notre vie adulte en France. On a pris la nationalité française, nos enfants sont nés en France. Donc je me sens beaucoup plus français que britannique. La seule chose qui n'a pas changé, c'est mon nom. Mais à part ça, voilà. Et donc, le thème de ce soir, de ce week-end, si j'ai bien compris, j'ai noté là, c'est moi et mon église locale. Donc, moi je suis un fanatique de l'église locale. Mais ce soir, on ne va pas tellement parler de l'église locale, on va avoir une sorte d'introduction. Et c'est demain matin que l'on va commencer à parler de l'église locale. Pourquoi l'introduction? Pour comprendre, en quelque sorte, le plan de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? C'est une question que l'on m'a posée, que j'ai traitée deux fois ces dernières semaines, lors de réunions d'évangélisation en France, à Bordeaux et à Toulouse. Pourquoi Dieu nous a créés? Dans quel but? Bon, la Bible ne répond pas exactement, mais je crois qu'il y a quand même des pistes qui nous aident à comprendre. Et moi, je dirais, Dieu nous a créés pour vivre des relations. Pour vivre des relations avec Dieu, pour vivre des relations les uns avec les autres. Et Jésus a dit que les deux plus grands commandements, c'est d'abord d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son intelligence, et ensuite d'aimer son prochain comme soi-même. Il est même allé plus loin pour dire que à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc tous ceux qui étaient trois rivières connaissent maintenant la référence de ce verset que j'ai cité à midi, Jean 13, 35. Voilà, merci. Il y a au moins quelqu'un qui écoutait à midi. J'avais promis un livre à celui qui pourrait me citer le verset. Voilà. Donc, l'amour est au fond, au cœur de l'univers, parce que Dieu est amour. Et là, le peuple français est d'accord. Parce que, selon un sondage récent, ils ont dit quelle est la chose la plus importante dans la vie, et 92% des gens ont dit l'amour. Seulement, après, beaucoup vont dire, ah bon, on se fait des illusions. Ou peut-être des désillusions face à l'amour. Et donc, je vous lis d'abord, au moins, pendant 5 minutes, essayer de nous faire comprendre pourquoi, pour beaucoup, cette notion tout simple que nous sommes faits pour l'amour, parce que Dieu est amour, semble difficile à accepter. Et j'ai dit pour trois raisons. D'abord, le temps, ensuite l'espace, ensuite le vide. D'abord, le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vu un des films les plus merveilleux jamais réalisés, à mon avis, un film qui s'appelle, même en français, Tree of Life. Tree of Life. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une faute professionnelle. C'est vraiment un film extraordinaire. Palme d'or à Cannes, il y a 2 ans. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce film? Pendant la première demi-heure, on voit la création de l'univers. Avec une très belle musique, on voit la force derrière l'univers, le feu, la puissance, les volcans. Et ensuite, petit à petit, on voit la vie qui commence à montrer son nez, apparaître quelque part. On voit les petites formes de vie, puis on voit les poissons, puis on voit les animaux, on voit les dinosaures à un certain moment, et on voit qu'il y a toute une longue histoire de l'humanité. Pourquoi ? Pour qu'une famille, qui est le sens de ce film, au Texas, dans les années 50, existe. Et cette famille n'arrive pas à s'entendre. Regardez, tout ça, pour ça. Des milliards d'années pour qu'une famille à Texas n'arrive pas à s'aimer, à se comprendre et à vivre ensemble. On pourrait dire n'importe quelle famille. C'est une sorte de parabole, un symbole de notre condition humaine. Donc tout ce temps-là, donc ça veut dire que, pour le dire autrement, si on est là simplement comme le produit du hasard pendant toute une longue période, on peut comprendre que on ne va pas voir dans l'amour ce qui est le plus important dans le monde, on va dire plutôt c'est le plus fort qui survit. Donc ce n'est pas l'amour, c'est la force. Deuxième raison pour laquelle on peut rejeter l'amour, c'est l'espace. L'univers est très grand. Très grand. Parfois, je cite en années-lumière, mais là, on va le voir autrement. Si on réduisait la Terre à la taille d'un petit pois, et à ce moment-là, on va dire que Jupiter se trouverait à peu près à 300 mètres de ce petit pois. Et à 2,5 km de là, se trouverait quelque chose de la taille d'une bactérie qu'on appelle la planète Pluton. C'est là où les choses se corsent. Parce qu'avec la Terre à la taille d'un petit pois, l'étoile la plus proche se trouverait à 16 000 km de la Terre. Réduit, ou si on veut en vrai chiffre, l'étoile la plus proche se trouve à 40 000 milliards de kilomètres. Et ça, c'est la planète la plus proche, qui est partie de notre galaxie. Où il faut à peu près, d'après les scientifiques, à peu près, je crois que c'est 100 milliards d'années pour traverser la vitesse de la lumière, notre galaxie. Bon, c'est incompréhensible. Et voilà, nous, petits bipèdes, sur cette Terre, petites bactéries, nous sommes au fond du lit, on fait même pas 2 mètres de haut, la plupart d'entre nous, on vit à peu près 650 000 heures, vous traduisez ça en heures, 650 000 heures, et voilà. Est-ce que l'amour entre ces petits êtres vivants, sur ces planètes perdues au coin d'un univers, ça a du sens ? On peut le voir aussi sur le plan un peu philosophique. Je vais citer que 2 personnes. D'abord, Nietzsche, qui a dit « Proclamer l'amour universel de l'humanité dans la pratique, c'est accorder la préférence à tout ce qui est souffrant, malvenu, dégénéré. » Parce qu'on va sauver les dégénérés, on va aimer les malades mentaux. Enfin, je le cite à peu près Nietzsche. Donc l'amour, c'est agir à l'encontre de l'intérêt, en fait, la plupart d'entre nous. C'est ce qu'il dit. Ou, pour citer une autre personne, plutôt scientifique que philosophe, Monod, Jacques Monod, prix Nobel en France, dans la cosmologie, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par le hasard. Ni son destin, ni son devoir ne sont écrits nulle part. Donc voilà ce que pensent les gens autour de nous. La plupart ne vont pas le dire aussi bien, mais c'est ça que pensent les gens autour de nous. Ça n'a pas de sens. On vit au jour le jour, on fait le mieux possible, mais au fond, il n'y a pas de réalité dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on dit face à cela ? sur les chrétiens. D'abord, on remonte jusqu'au début de la Bible, Genèse chapitre 1, et je cite, je vais le lire dans la version du Semeur, « Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. » Dans la version plus classique, nous sommes faits à l'image ou en image de Dieu. Donc ça veut dire que même si on est tout petit, on ne vit que 650 000 heures, on a de l'importance, parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et je ne vois aucune autre façon de vivre, aucune autre philosophie ou vision du monde qui donne autant d'importance à l'être humain que cette phrase, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Pas à l'image de Dieu dans sa perfection, dans sa puissance, dans son omniscience, mais quand même la capacité de penser, de parler, d'aimer, de l'adorer, de créer. Un être humain n'agit pas par instinct comme un oiseau. Avec Marie, on a vu lundi quelque chose qui nous... Ça m'a touché à chaque fois, les grues, les oiseaux, les grues qui traversaient la France, on les a vues au-dessus de la ville où on était, les oiseaux en forme de V, mais avec ils croissent un petit peu, mais c'est incroyable. Ils partent de l'Espagne, de l'Afrique du Nord, pour aller vers le nord de l'Europe. Ils atterrissent sur le même lac. Comment ils font? Et pourtant, ils ne créent pas. Un être humain est capable de créer quelque chose. Les maisons sont différentes les uns des autres, parce que chaque occupant, il choisit des couleurs différentes, il aménage sa maison autrement. On est capable de créer à notre petit niveau. Donc, nous sommes quelque part créés dans l'image de Dieu. Et ce Dieu, qui est-il? Parce que là encore, il y a un certain nombre de possibilités. Comment est-ce que c'est possible de dire que Dieu est amour? Si Dieu était monothéiste au sens strict du terme, parce que nous sommes des personnes, en tant que chrétiens, qui croient à un Dieu trinitaire, mais qui monothéiste, où il n'y a qu'une seule personne en Dieu. L'expression « Dieu est amour » n'a aucun sens. Parce qu'avant la création, qui aimait-il? Et s'il s'aimait lui-même, on va dire que c'est égoïste. Ça n'a pas de sens. Alors que le Père qui aime le Fils et le Saint-Esprit, le Fils qui aime le Père et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui aime le Père et le Fils, le Père et le Fils qui aiment le Saint-Esprit, le Fils et l'Esprit qui aiment le Père, il y en a un qui j'ai oublié, enfin, tout cela, c'est l'amour. Ce qui est intéressant d'ailleurs, dans l'islam, qui est strictement monothéiste, il ne dit jamais dans le Coran que Dieu est amour. Jamais. Il dit qu'il est clément, miséricordieux, mais jamais Dieu est amour. Alors, certains théologiens musulmans disent que Dieu, Allah, a 100 noms, et nous n'en connaissons que 99. Certains vont jusqu'à dire que le chameau connaît le centième, mais je crois que les chrétiens connaissent le centième. Dieu est amour. Donc, un Dieu strictement monothéiste ne peut pas être amour. Un Dieu dualiste, que Père et Fils, ce serait un amour fusionnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, le Fils ne pourrait pas dire à notre esprit, qu'est-ce que c'est bien cet amour que l'on a avec le Père. En voulant qu'une troisième personne soit inclue. Il faut un Dieu trinitaire pour que cet amour existe. Donc ça veut dire, puisque Dieu est trinitaire, au fond, l'amour est la chose la plus réelle qui existe. Et nous sommes créés pour cela. Un autre film, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est plus ancien, avec Tom Hanks, Seul au monde. C'était Castaway, je ne sais pas si vous connaissez là. Bon, c'est un cadre de FedEx qui se trouve sur une île déserte, après un crash d'avion, c'est le seul survivant. Et donc, il faut que pendant 4 ans, qu'il vive tout seul. C'est pas évident. Il doit tout redécouvrir, comment faire du feu. Je ne sais pas si on était dans cette situation, comment on s'en sortirait. Il a appris à attraper des poissons, même. C'est un moment du film que je n'ai pas trop aimé, où il a réussi à s'arracher une dent, tout seul. Une dent cariée. Mais la plus grande souffrance, c'est sa solitude. Et quand il a récupéré un ballon de volée, qu'il a mis sur un bâton, il a peint dessus 2 yeux, un nez, une bouche, il passait son temps à parler avec ce ballon, parce qu'il n'était plus tout seul dans ce sens. La solitude est terrible. Et Aristote avait dit en son temps que l'homme est un animal social. Et donc là, je reviens à la Genèse, où Dieu dit, le Seigneur Dieu dit, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans ce contexte, c'est la création de la femme, c'est aussi le mariage, mais je crois que la phrase est beaucoup plus large que cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là encore l'analyse biblique qui nous aide à comprendre. L'être humain qui aurait pu vivre en bonne relation avec les autres et avec Dieu, s'est détourné de Dieu. La rébellion, la chute, la rupture, différents termes sont utilisés en théologie. L'homme s'est dit, ce grand Dieu, créateur de l'univers, qu'est-ce qui c'est de ma vie? Je veux vivre ma vie à moi, comme je l'entends. Qu'est-ce qui comprend Dieu à ma vie? C'est un peu, mais beaucoup plus grande échelle, chacun de mes enfants, à l'âge de 13 ans, de façon indépendante les uns des autres, j'en ai 4, on en a 4 enfants, ont dit au cours de notre même année, « Papa, je sais mieux que toi. » C'est parti de la vie. Et voilà ce que les êtres humains ont dit. « Père, Dieu, c'est mieux que toi. On va vivre notre vie comme on le veut. » On va appeler le bien mal, le mal bien, on va faire les choses comme on veut. Et ça, c'était terrible. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous connaissez l'histoire comme moi. Jésus est venu, envoyé par le Père, pour réparer la faute, pour nous récupérer, pour nous sauver. Et j'aimerais donc terminer cette petite introduction. Marc m'a dit, ce soir vous êtes fatigué, je ne peux pas parler trop longtemps. Mais c'était l'introduction avec une lecture dans Éphésiens chapitre 3. Si vous avez la Bible, vous pouvez le lire, sinon je vais le lire de toute façon. Éphésiens 3 et les versets 6 à 12. Où il parle encore de mystère, on en a parlé à midi. Et ce mystère, et dans la Bible, mystère veut dire quelque chose qui était caché, qui était mystérieux, mais qui ne l'est plus, parce que révélé en Jésus, ce mystère, verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, dit Paul, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment vaincue de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, l'Église, on parle de l'Église locale demain, mais là on parle de l'Église dans son ensemble, le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, c'est une Église qui réunit tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Ici, il s'agit des païens, goyim, si on veut, des peuple et les juifs. C'est extraordinaire, hein, extraordinaire, que ce peuple juif qui connaissait les promesses de Dieu, l'ancienne alliance, les commandements de Dieu, se sont retrouvés dans le même groupe, le même peuple, avec des païens qui adoraient des idoles, qui ne comprenaient rien, qui pensaient que l'immoralité était normale en quelque sorte, qu'il y avait la prostitution sacrée dans les temples. Enfin, on ne peut pas imaginer que des personnes qui se tournent vers Jésus des deux côtés forment un seul peuple. Et ça continue. Parce que nulle part ailleurs, je dirais presque, on ne trouve dans ce monde un groupe de personnes issues de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples. Ça, je cite l'Apocalypse. Hein. Donc, voilà la première chose, c'est que nous formons un seul peuple. Deuxième chose, c'est le verset 10, ce peuple est un peuple que le Seigneur a fait dans sa sagesse infiniment variée. Dans cette variété de l'Église, on trouve un témoignage au Seigneur. La variété, non seulement de ce que nous sommes, nos origines, nos tempéraments, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, mais aussi la sagesse infiniment variée de Dieu. Si on écoutait les témoignages des uns des autres, tous les chemins différents et variés, complexes, pour qu'on arrive à la croix. Et le Seigneur a permis cela. Parce qu'il a voulu qu'on vienne à lui en toute liberté. Il a mis dans des situations. Et voilà, cette sagesse infiniment variée parle aux autorités de domination qui le voient. Troisième chose dans ce texte, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'était éternel et petit à petit, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé. D'abord à des individus, puis un peuple, le peuple d'Israël. Parce que Dieu cherchait un peuple. Et ce peuple devait être le berceau du Messie. Et à partir de ce moment-là, l'alliance n'était pas avec un seul peuple, avec tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Là, on peut le tracer aussi. La quatrième chose, verset 12, « En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Nous approchons du trône de la grâce ensemble. Ensemble. Dieu aurait pu dire, je suppose, « Voilà, chaque personne qui croit en mon Fils, il est sauvé. » On ne va jamais se rencontrer, ce n'est pas grave. Il nous met ensemble. Bon, là, on va développer un peu plus demain toutes les raisons pour lesquelles il a fait parfois les difficultés. Mais il a voulu un peuple. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais principalement pour que nous puissions être la nouvelle humanité, les personnes qui vivent enfin leur vraie humanité, dans les relations les uns avec les autres, en toute honnêteté, en toute apparence, en nous intéressant les uns aux autres, en prenant soin les uns des autres, en veillant les uns sur les autres, pour vivre le vrai relationnel que les gens aimeraient, ont toujours aimé ou voulu vivre, mais n'ont pas pu le faire à cause du péché. Donc, nous sommes les prémices de ce peuple de Dieu qu'il est en train de constituer tout au long des siècles. Et c'est la raison pour laquelle une église locale, qui est une parcelle de cette église universelle, on va revenir à cela, a tellement d'importance. Parce que c'est là où on apprend ces choses. Je peux dire de tout mon cœur, par exemple, j'aime tous les chrétiens au Chili. On ne connaît pas. C'est facile de dire. Mais ça se trouve que dans mon église, il y a plein de gens que je trouve difficile à aimer. Bon, c'est peut-être que moi. Peut-être les autres églises, ce n'est pas comme ça. Mais c'est le lieu où on apprend, on fait l'apprentissage de ce relationnel. On apprend à nous aimer les uns les autres, à progresser ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un peu de recul pour cette première séance. De voir, aux yeux du monde, c'est fou que ce soit aussi important. Quand, je ne sais pas si l'expression existe au Québec, mais quand un Français dit « passons aux choses sérieuses », ça veut dire qu'il va commencer à parler argent. J'ai toujours envie de dire « ah, on va parler de l'amour alors ». Ça, c'est vraiment ce qui est vraiment sérieux et vrai et réel. Donc voilà, je m'arrête là pour ce soir et on va aller dans le terre à terre demain matin.